Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la contraception et tout particulièrement la pilule. 50 ans après sa légalisation, la pilule reste et de loin le moyen de contraception dominant en France, mais depuis quelques années, des doutes ont émergé quant à ses effets secondaires, doutes dont les conséquences se lisent aujourd'hui dans les statistiques, chez les 15-49 ans. Moins d'une femme sur deux y a désormais recours. Et ce désamour pour la pilule est le plus marqué chez les femmes de moins de 30 ans, qui semblent lui préférer des modes plus naturels de contraception. Toutes vos questions ce soir, vos témoignages, on est ensemble jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le 01 45 24 7000 pour le standard d'Inter. Bonsoir Maud.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir. Voilà, je voulais un témoignage. Je vais avoir 42 ans et je prends une pilule deuxième génération depuis l'âge de 18 ans. Donc quasi en continu depuis 24 ans. Je précise que je n'ai pas d'enfant. Mmh. Et puis la dernière, une fille.
Essayez de ne pas bouger, Maud, parce qu'on vous entend très très mal. Je pense que vous nous appelez d'un téléphone portable.
Tout à fait.
Voilà, alors ne bougez plus, là c'est parfait.
D'accord. Donc voilà, je prends une pilule deuxième génération depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait 24 ans que je la prends en continu. Et l'année dernière, donc j'ai eu une phlébite, donc non expliquée ni par mon médecin de famille, ni par ma gynéco. Pas de coups, pas de problème d'analyse au niveau anticoagulant. Donc on a très fortement supposé que c'était cette pilule, effectivement, deuxième génération. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de moyens de contraception et un petit peu rebuté par l'idée de continuer à ingérer une pilule qui est un élément chimique ou éventuellement porter un stérilet. Donc je précise que je n'ai pas d'enfant, donc stérilet en pilule.
On vous entend très mal, Maud. Je suis désolé. On a compris le sens du début de la question. En tout cas, on va essayer de vous joindre avec une bonne ligne. Alors, pour commencer, d'abord, je vous présente les invités du téléphone sonne. Véronique Seyé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la coprésidente du planning familial. Avec nous également Thierry Harvey, bonsoir.
Bonsoir.
Chef du service de la maternité des diaconesses à Paris. 42 ans, la pilule depuis 18 ans. Une phlébite l'année dernière, que voulez-vous en dire? Allez, Thierry Harvey, pour commencer.
J'ai cru entendre qu'elle disait « je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas le droit à une contraception intra-utérine », c'est faux. Ouais, ouais. Donc là aussi, c'est une espèce de vieille casserole qu'il va falloir que ce soir, on démonte définitivement.
Alors allez-y.
Le fait de ne jamais avoir eu ni de grossesse ni d'enfant n'est en aucun cas une contre-indication à une contraception intra-utérine, c'est-à-dire un stérilet, aussi bien un cuivre qu'hormonal. Donc ça, c'est une espèce de prérequis simple. Elle a 42 ans, elle a fait une phlébite, oui, c'est probablement en rapport avec la pilule et peut-être un petit quelque chose d'à côté. Elle ne peut plus prendre la pilule si elle le souhaite, mais il y a des contraceptions avec des progestatifs seuls qui ne sont pas contre-indiqués. Elle peut se faire poser un implant ou un dispositif intra-utérin, donc voilà.
Donc il y a encore une gamme très large, possible. Véronique Seyé.
Et puis, à 42 ans, si elle a un projet d'enfant, effectivement, c'est important de pouvoir avoir une méthode réversible, mais si elle n'a pas de projet d'enfant, il existe aussi des méthodes de contraception définitive qui sont accessibles aujourd'hui en France sans aucun problème pour toute femme qui le souhaite, toute femme majeure qui le souhaite.
On repart au standard. Alice nous appelle des Yvelines. Bonsoir et bienvenue dans le téléphone sonne.
Bonsoir, merci de prendre mon témoignage.
Je vous en prie.
J'ai 42 ans, ça fait 4 ans que j'ai arrêté la pilule que je prenais depuis que j'avais 19 ans, que j'ai pris entre mes enfants. On m'avait d'ailleurs fait changer de pilule parce que j'étais sous diane 35 et pour allaiter mes enfants, on m'avait passé sur une... qui était des petits garçons, on m'avait passé sur une pilule moins forte. Et puis, il y a 4 ans, j'en ai eu marre des migraines, de la mastose, des mycoses, de la baisse de libido. Je pouvais plus, j'avais plus envie de pilule. Et puis, je pouvais pas mettre de stérilet parce que j'ai un utérus cloisonné. Donc, depuis 4 ans, avec mon mari, quand c'est le moment, on compte les jours, je surveille mon cycle. Et puis, quand c'est le moment, il met des préservatifs. Et depuis 4 ans, j'ai pas eu de problème. Néanmoins, si on avait dû si jamais on avait eu une grossesse, on l'aurait accepté parce que voilà, c'était un projet. On s'est dit, on veut pas d'enfants, mais si ça arrive, eh bien, voilà, on pourra. Maintenant, à 42 ans, j'envisage une stérilisation parce que je me dis que à un moment donné, mes cycles vont se dérégler. Et puis, je sais pas, par exemple, à 47 ans, une grossesse, ça serait pas possible. Là, je voudrais pas. Mmh. Donc, voilà.
Mmh. Bah, écoutez, merci pour ce témoignage, ouais, Alice. Bien. Véronique Seyé, vous voulez dire un mot?
Oui, ce qui est important dans ce témoignage-là, c'est la question du choix de la personne, hein, de dire, à un moment donné, la pilule, j'en ai eu marre. Et on a pris des méthodes naturelles en se disant que s'il y avait un risque de grossesse, on l'assumait. Mmh. Voilà. Et puis, la méthode de contraception définitive, c'est vraiment aujourd'hui une solution qui convient à beaucoup de personnes. Et il y a plusieurs méthodes de contraception définitive. Ça peut être une méthode féminine ou ça peut être aussi une méthode masculine. Et alors, la vasectomie, c'est aussi possible.
Voilà, on a beaucoup de questions d'hommes au standard d'Inter. Ouais. On va leur donner la parole dans quelques instants. Thierry Harvey, sur ce que nous disait Alice, qui arrête la pilule parce que ça lui bouffait la vie, comme elle l'a dit.
Mais elle a raison sur le fait qu'il y a une baisse de la libido. Oui, il y a une réelle baisse de la libido avec la contraception orale, hein, contrairement à ce que d'aucun ou d'aucune pourrait dire. Oui, ça augmente aussi le risque de mycose. Oui, elle a eu raison, mais elle est dans un couple stable, avec une relation stable, avec un conjoint qui accepte de mettre des préservatifs lorsqu'elle lui dit. Donc là, c'est un couple idéal. C'est pas forcément la vraie vie de tout le monde,
je pense. C'est-à-dire que cette décision serait plus compliquée si elle était dans une autre situation conjugale amoureuse, Véronique Seyé.
Bah oui, en fait, je crois que là, c'est vraiment une question qui se pose en couple. Il y a aussi des personnes qui ont une vie amoureuse ou une vie sexuelle qui font que c'est important de se protéger chacun de son côté. Enfin, je crois que ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, dans les risques liés à la vie sexuelle, il y a à la fois les risques liés à la contraception et puis les IST, le VIH. Et donc, je pense que c'est vraiment important de réfléchir ça dans une approche globale et positif aussi de la sexualité. Je veux dire, ce qui est important, c'est qu'une contraception aujourd'hui soit adaptée au mode de vie de chacun et de chacune et qu'il n'y a pas une bonne contraception. C'est vrai qu'en France, on a été beaucoup dans une norme contraceptive où on démarre en gros avec le préservatif, puis la pilule. Et puis quand on a eu des enfants, on peut poser un stérilet. Mais en fait, cette norme contraceptive aujourd'hui, elle commence, et ça c'est peut-être un des effets de la crise de la pilule de 2013, elle commence un petit peu à bouger, pas beaucoup, parce que la pilule est quand même toujours en France le moyen de contraception le plus utilisé, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Hein. Mais ce qui est important, c'est effectivement la question du choix de la personne et la question d'une contraception adaptée à un mode de vie qui peut bouger. On peut aussi essayer des méthodes de contraception, se rendre compte qu'elle ne nous convient pas, en changer, et ça c'est
donc
vraiment important.
Donc la voie royale et républicaine, préservatif, pilule, stérilée, il peut y avoir d'autres scénarios.
Bien
c'est
sûr,
ça
ce que. Sûr,
alors dites-nous, ça peut être quoi les autres scénarios alors?
Mais bien sûr.
Alors, Thierry Harvey.
Le préservatif a deux effets. Il protège d'un côté des infections sexuellement transmises et de l'autre côté, il protège de la grossesse. Et n'oublions pas que si à ce moment-là, on passe à un schéma pilule, etc., ne pas oublier la protection pour les IST, hein, comme on vient de dire. Donc le schéma, à la base, c'était classiquement, on commence, on est ado avec des préservatifs et puis on s'amuse à se faire peur. Finalement, on ne le met pas parce qu'on a fait les tests. Et puis finalement, on va voir le pharmacien pour dire... Là, je crois qu'il s'est passé quelque chose, je voudrais la pilule du lendemain. Le pharmacien va vous dire, mais je ne vous ai pas déjà vu il y a 15 jours, je ne vous ai pas déjà vu il y a 8 jours. Normalement, le pharmacien est censé avoir un temps pour prendre la jeune fille un petit peu à côté, non pas lui faire la leçon, mais un petit peu de...
Lui expliquer les choses, c'est ça?
Lui expliquer les choses, c'est pas ne pas lui faire la leçon, mais lui dire, ça fait 4 fois que je vous vois dans le mois, peut-être qu'une contraception plus simple, ou en tout cas plus fixe, ça pourrait arriver. Après, les jeunes filles avaient le choix entre pilule et rien. Sauf que, merci la crise de la crise de la pilule de 2013, qui a succédé à une autre crise des troisième génération il y a un certain temps. Et enfin, un certain nombre de gynécologues comprennent que la contraception intra-utérine ou l'implant, puisqu'on peut mettre quelque chose dans le bras, peuvent être des contraceptions qu'on peut donner très tôt. On n'est pas obligé d'avoir 10 ans de pilule, on n'est pas obligé d'avoir un enfant pour pouvoir avoir un stérilet. C'est fini tout ça.
Enfin, vous nous faites un petit point d'histoire sur la fameuse crise de 2013.
Ah ben,
Véronique Seyé.
Mais il y a eu plusieurs choses, mais c'est vrai que il y a eu le problème de Diane 35 hein, qui avait été évoqué à un moment donné, mais on va peut-être pas y revenir de façon très importante. Mais
dites-en un mot.
Quatre décès sur 25 ans. Et comme disait un de mes collègues, est-ce que dans le même laps de temps, sur ces 25 ans, on a colligé le nombre de tétraplégiques à la suite de chutes dans les clubs de poney chez les enfants? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est Est-ce qu'on va colliger ces choses-là? Donc il y a 4 décès, oui, 4 décès probablement imputables. Et la première auditrice qui a parlé de phlébite, qui a arrêté, bien sûr. Il y a des risques de thrombose, il y a des risques de thrombose existent. Mais à nous, quand nous sommes prescripteurs d'un médicament, d'avoir en face un humain que nous allons interroger, ça prend pas 5 minutes, de voir avec elle si elle a des antécédents familiaux. Avant, on se posait juste les questions de la mère, mais peut-être il y a la sœur, et puis les générations n'ont pas tout à fait le même âge. Est-ce que quelqu'un a fait une phlébite? C'est quoi une phlébite? Donc il va falloir expliquer ce que c'est qu'une phlébite, etc.
Mais est-ce que c'est donc là que le doute a été semé?
Alors en fait, il y a eu...
On voit se propager aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Donc il y a eu effectivement cette crise des pilules de 3e et 4e génération, où on a du coup mis un peu la panique sur l'ensemble des pilules. Je pense que ce qui est important, enfin, dans ce qui vient d'être dit, c'est l'information sur les bénéfices et les risques. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que pour certaines filles qui appelaient à ce moment-là, elles n'avaient pas eu vraiment cet interrogatoire. Elles ne savaient pas, pour certaines, qu'elles avaient une pilule de 3e ou 4e génération. Et donc, du coup, ça a jeté un peu l'opprobre sur l'ensemble des pilules, alors que la pilule est une méthode de contraception qui convient bien, à condition qu'on accepte effectivement les risques de cette pilule d'une façon générale. Mais les risques, c'est pas simplement les risques médicaux, c'est aussi le fait qu'on peut l'oublier de temps en temps, et ça je crois que c'est un point important, hein. Je pense que personne qui prend son traitement, un traitement pour le diabète ou pour des maladies cardiovasculaires par exemple, dit n'a jamais oublié un comprimé. Donc l'oubli d'un comprimé doit faire partie de l'information. Donc dans la crise de la pilule, il y a eu à la fois la prise de conscience qui avait besoin d'une information claire sur les bénéfices et sur les risques, comme pour toute prise de médicaments. D'autre part, le fait qu'on pouvait choisir une méthode de contraception. Et donc, ça mettait en évidence, d'une part, le fait qu'effectivement, il y a une formation importante de la part des professionnels de santé, mais aussi la nécessité d'une information des personnes pour qu'elles puissent poser des questions. Ce qui s'est passé là, c'est que des filles sont venues voir des médecins en disant « je veux une autre méthode de contraception » parce qu'elles étaient informées. Or, aujourd'hui, en France, l'information sur les méthodes de contraception, l'éducation à la sexualité qui est prévue dans la loi n'est pas suffisamment développée, et c'est un vrai problème. Et je pense qu'on a vraiment en France intérêt à développer tout ce qui est information, éducation à la sexualité, prévention, de façon à permettre aux personnes de faire un choix éclairé et de pouvoir avoir une relation d'égal à égal avec le professionnel de santé. Je pense que c'est important. Et puis des professionnels de santé
formés,
qui effectivement soient bien formés, posent les bonnes questions et soient dans un dialogue singulier sur la méthode de contraception, parce que chaque femme, chaque homme est unique et différent. Je pense que ça, c'est important.
Oyana, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci de prendre mon appel.
Je vous en prie. Bienvenue.
Alors, voilà, moi, je voulais apporter mon témoignage. J'ai subi une IVG à 16 ans. Et à partir de là, j'ai été mise sous pilule, donc 3e génération. Et en fait, quand il y a eu le scandale donc de Diane, même si je prenais pas... Enfin, je prenais une pilule 3e génération, Mélodia. Et là, tout le monde a... Enfin, bon, c'est vrai que tout le monde en parlait beaucoup. Mon copain a eu un peu peur. Mon père, qui est médecin généraliste, lui aussi, était pas très rassuré. Donc, j'ai arrêté ma pilule. Et donc, je me suis mise à un mode de contraception avec les préservatifs. Et en fait, à partir de là, j'ai réalisé que beaucoup de symptômes, tels que les maux de tête, migraines, mais aussi des évanouissements, je m'évanouissais environ tous les 6 mois, en fait, étaient liés à la pilule, parce que depuis, je me suis plus jamais évanouie et j'ai plus de migraines. Et j'ai perdu énormément de poids. Enfin, bon, ça a été un peu, au niveau de ma santé...
Miraculeux.
Vraiment, je me sens beaucoup mieux.
Ça a été miraculeux, l'arrêt de la pilule, à vous entendre.
Peut-être pas miraculeux, mais en tout cas, c'est vrai que ça a été assez libérateur de plein de petits symptômes, en fait, que j'avais pas liés à la pilule, et que, en fait, j'ai réalisé plus tard que
c'était ça.
Lié, oui, que c'était ça, et donc, je me demande si, en fait, on n'a pas tendance à un peu trop privilégier. Enfin, je comprends, hein, la pilule, ça évite le préservatif, qui est pas très glamour, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il faudrait plus inciter les gens à mettre le préservatif, parce que finalement, ça protège de plus de choses que la pilule. Et au-delà de ça, c'est un moyen plus naturel et qui ne vient pas bousiller un peu notre système hormonal. Quoi.
Merci, Oyana. Alors, beaucoup de choses témoignage. Ouais. Le mot naturel apparaît dans notre débat. Mettre moins de choses dans son organisme, vient-elle de dire également. Comment vous réagissez à l'ensemble de ce propos, Thierry Harvey?
Alors, La première des réactions de quelqu'un qui continue à avoir des maux de tête, hein, parce qu'elle a parlé de migraine sous pilule, la personne qui lui a prescrit la pilule eût pu se poser la question de la poursuite. Donc ça, c'est une première des choses, migraine pilule égale arrêt de pilule. Deuxième des choses, prendre quelques kilos, oui, ça existe, c'est réel, il y a 1 ou 2 kilos, 3 kilos qu'on prend, mais c'est en fonction de son alimentation. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que donc, alors la pilule et le préservatif, la pilule empêche bien les grossesses, le préservatif protège aussi des IST, mais le taux d'échec, c'est-à-dire le nombre de grossesses avec préservatif, est de l'ordre de 14%. Je répète tranquillement, 14% d'échec.
Ce qui est considérable.
Ce qui est considérable. Alors, il y a aussi un taux d'échec sous pilule, car oui, il y a des ovulations sous pilule, oui, il peut y avoir des oublis. L'oubli, et je pense que là aussi, c'est quelque chose à souligner rapidement, ce qui est dangereux, c'est l'oubli dans la première semaine qui suit l'arrêt. Alors que souvent, on a le coup de fil de la jeune patiente qui dit « Ah, oh, j'ai oublié la pilule, je suis en milieu de ma plaquette, c'est au moment de l'ovulation. » Non, c'est bon, une fois qu'on a pris au moins 7 jours de pilule, basta, on n'en parle plus. Donc ce qui est dangereux, c'est de se dire « Au fait, je devrais la reprendre lundi, mardi, mercredi. » Et là, à ce moment-là, l'ovulation a déjà démarré. Mais si elle est heureuse comme ça, tant mieux, je suis content. Si avec son conjoint, tout se passe bien, je suis heureux pour elle. Mais le préservatif nécessite de les avoir achetés, nécessite que le garçon pense à les mettre, que tout d'un coup on ne dise pas « Ouais, allez, ce soir, on essaye sans préservatif ». Comptez les jours, comme l'auditrice précédente, c'est bien, mais n'oublions pas que les spermatozoïdes ont une durée de vie de 4 à 5 jours, que la fenêtre fertile, c'est 4 à 5 jours chez une femme, et donc avant l'ovulation, etc. C'est bien de se connaître.
Véronique Seillet.
Oui, alors je voudrais réagir sur deux points. Donc le premier, c'est de dire que si on laisse faire la nature, en fait, on peut avoir autant d'enfants qu'on veut et que toutes les femmes ne sont pas égales, d'ailleurs, par rapport à la fécondité et qu'il y a des femmes qui vont être enceintes très vite et d'autres qui vont avoir du mal à être enceintes. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui, hein. Donc effectivement, à partir du moment où on veut maîtriser sa fécondité, c'est mieux de réfléchir à un moyen de contraception et de réfléchir sur l'ensemble de la gamme des moyens de contraception, hein. Il n'y a pas que la pilule dans la vie. La contraception, c'est pas qu'une affaire de fille. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'en parler. Donc soit on en discute avec son copain, soit effectivement on a aussi d'autres méthodes de contraception. On a évoqué tout l'éventail des méthodes de contraception. Stérilé, l'implant, la contraception définitive, voilà. Oui. On n'a pas parlé des anneaux, on n'a pas parlé non plus des patchs. Hein, pour certaines personnes, ça convient bien.
Allez-y, c'est bien, c'est mieux.
Parce que nous, par exemple, au planning, il nous arrive d'avoir aussi des jeunes femmes qui disent « Moi, je veux une méthode de contraception qui ne se voit pas ». Pour un tas de raisons, parce que c'est vrai que quand on démarre sa vie sexuelle, on n'a pas forcément envie d'en parler avec ses parents, on n'a pas forcément envie que la maman tombe sur la plaquette de pilule, et donc on veut pas de la pilule, donc on peut proposer les dispositifs intra-utérins ou le stérilet, on peut proposer d'autres méthodes de contraception, ça c'est important. Et puis, on a aussi fait un constat, et ça c'est une étude de l'INSERM qui le montre aussi. Alors c'est vrai qu'on a des personnes qui disent « je veux pas d'hormones, je veux pas d'objets dans mon corps », mais il y a encore d'autres méthodes de contraception qui sont accessibles. Et puis on a aussi des personnes qui se sont détournées d'un mode de contraception parce que il était trop coûteux ou parce qu'il n'était pas remboursé. Et ça, c'est un point important aussi. Je pense que c'est important, quand on prescrit une contraception, de voir comment cette contraception peut être prise en charge et remboursée pour la personne qui est en face, si c'est un problème pour elle ou pas. De façon à pouvoir poursuivre cette contraception de façon satisfaisante pour elle. Donc je pense qu'il y a plein de critères à prendre en compte. Et on s'est rendu compte que, par exemple, des personnes se sont tournées vers des méthodes de contraception dites naturelles parce qu'elles pouvaient plus se payer une autre contraception. Et donc je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur cette question de la prise en charge des contraceptifs, l'accessibilité de tous les moyens de contraception pour tout le monde.
Que ce soit vraiment accessible et pas indexé sur les revenus.
Et y compris les préservatifs, parce que je pense que beaucoup de jeunes utilisent des préservatifs. Alors, il y a plein d'endroits où on distribue des préservatifs gratuitement, mais vous allez dans les lycées aujourd'hui, il y a beaucoup de distributeurs de préservatifs qui sont vides, qui ne sont pas remplis. Voilà. Et vous avez dans des zones très rurales aussi, des endroits où c'est compliqué de trouver les préservatifs. Alors on va dire, c'est quand même pas très cher d'acheter un préservatif, mais c'est pas toujours facile d'aller acheter une boîte de préservatifs dans la pharmacie où on est connu.
Voilà. Retour au standard d'Inter. Bonsoir Christelle.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Voilà, j'ai une question. Donc, je prends la pilule depuis l'âge de 22 ans et j'en ai 45. Bon, ça fait un petit moment maintenant que je la prends essentiellement parce que j'avais des règles douloureuses et grâce à la pilule, mes règles ne sont plus douloureuses. Donc je voulais savoir s'il y avait des conséquences sur le long terme, parce que j'entends beaucoup autour de moi des personnes dire que la pilule, au bout de pas mal d'années, c'est très mauvais pour la santé. Mmh. Et puis, rapidement, je suis sur des groupes plutôt écolo, Facebook, zéro déchet, bio et tout ça. Donc, c'est vrai que quand vous dites que vous prenez la pilule, c'est très mal vu. Quand vous dites que vous consommez bio et que vous prenez la pilule, alors les gens vous disent, mais tu fais attention à ta alimentation, à ton alimentation, mais pas attention à ce que tu ingères dans ton corps au niveau médical. Voilà.
Merci Christelle pour l'ensemble de ce témoignage. Pour la question également, vous n'êtes pas la seule hein, à poser la question de la dimension naturelle ou artificielle de la contraception. Thierry Harvey, pardon, pour répondre à Christelle alors, sur les risques à long terme.
Alors déjà, si on, au lieu de parler que des risques et des effets, j'allais dire délétères, si on parlait des effets bénéfiques de la pilule.
N'oubliez pas pour autant la question.
Mais justement, parce que le premier effet bénéfique qu'elle vient de dire, c'est j'ai des règles moins abondantes et j'ai des règles moins douloureuses. C'est un réel effet bénéfique. Sur l'effet à long terme, la pilule réduit de façon significative le risque de cancer de l'ovaire, environ 60%, et le risque de cancer du côlon, environ 40%. Donc, il y a des effets bénéfiques. À côté de ça, oui, 45 ans, elle peut se poser la question d'autres méthodes. Alors, une contraception intra-utérine, si elle met un dispositif intra-utérin au cuivre, elle va de nouveau avoir des règles abondantes et de nouveau avoir des règles douloureuses. Elle peut prendre l'option d'un dispositif intra-utérin hormonal, elle aura des règles très peu abondantes, voire une chance sur deux de ne pas avoir de règles, et moins de douleurs de règles. Mais elle aura un corps étranger dans son corps, etc. Après, il y a des choix à faire. L'intérêt de la contraception, c'est de maîtriser sa sexualité, ses grossesses. Soit elle décide de maîtriser ses grossesses, et donc il y a un prix à payer. Soit elle décide de vivre de façon écologique et d'avoir une contraception qui en est une ou pas. Mais libre elle, la fécondité existe à 45 ans. Je comprends son choix.
Est-ce nouveau l'arrivée de cette réflexion sur le côté naturel de la contraception, la dimension écologique, pour reprendre votre terme? Est-ce que vous le voyez monter, ça, dans le dialogue que vous pouvez avoir avec vos patients?
Oui, c'est le tout sauf des hormones. J'ai déjà assez d'hormones dans ce que je mange, on a caché des hormones dans mon poulet, dans ma viande, etc., même si c'est bio. On m'a caché du bisphénol A dans ma canette de coca, on m'a, et ça fait des années que je prends des hormones, donc j'ai déjà toutes les hormones qu'on m'a cachées, théorie du complot, et je ne vais pas en plus prendre des hormones qu'on ne me cache pas, théorie du non-complot, celle de la contraception. Reste à savoir qu'est-ce qu'on a envie d'avoir. Un enfant? Pas d'enfant? Des rapports, une sexualité débridée, pas débridée. On a tous des choix à faire dans la vie. Libre à elle de faire son choix. Mais à nous, professionnels de la...
Vous leur dites quoi quand c'est invasion des hormones sous toutes les formes possibles et imaginables, plus la pilule, vous répondez quoi?
Alors, je leur dis qu'en termes de contraception, si elles souhaitent une contraception non hormonale, leur reste soit la contraception définitive dont on parlait, et j'insiste aussi sur une deuxième contraception définitive qui est la contraception masculine. Alors pour vous raconter une histoire très drôle, il y a quelques années arrive une patiente qui me dit « Mon mari s'est fait faire une vasectomie, je dis très bien, je vous retire votre stérile. » Elle me fait « Mais ça va pas, non ?» Ok, fin de l'histoire. Donc oui, mais si dans un couple qui est stable, la vasectomie, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le mec, avant qu'il accepte de se faire clipper ses déférents, il y a du chemin.
Bah Marc-Antoine est en ligne, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je crois que la réponse vient un petit peu d'être donnée. Effectivement, j'avais une question concernant...
Posez la question maintenant qu'on a la réponse.
Non, mais effectivement, la contraception apparaît comme souvent présentée comme une affaire de femme. Or, oui. Ça se passe à deux aussi. Vous avez parlé du préservatif. En tout cas, pour la vasectomie, c'est une méthode qui est pas présentée, peu connue. J'ai un ami qui l'a pratiqué, il avait 50 ans, déjà 3 enfants. Moi je m'interroge, j'ai plus de 40 ans, déjà 3 enfants aussi, je suis dans un couple stable. Pourquoi c'est pas présenté? Comment ça se passe? Et puis peut-être qu'il y a d'autres moyens aussi hormonaux. J'avais entendu parler d'une pilule pour hommes il y a quelques années, on n'entend plus parler de ça, est-ce que vos invités peuvent nous en dire plus?
Merci Marc-Antoine, ils vont le faire tout de suite, Véronique Seillé.
Alors effectivement, vous avez raison de poser cette question, parce que la question de la vasectomie et des contraceptions masculines en général, c'est aussi lié à l'éducation qu'on a reçue. Vous prenez un pays comme les Pays-Bas, par exemple, où l'éducation à la sexualité démarre dès le plus jeune âge, comme ça pourrait l'être en France dans la loi, mais c'est pas vraiment fait comme ça, d'ailleurs. Mais en tout cas, dans les Pays-Bas, vous avez 25 000 personnes qui se font vasectomiser contre à peu près 5 000 en France. Donc, il y a aussi, je pense que plus on va expliquer que la contraception, c'est pas qu'une affaire de filles, ça concerne autant les filles et les garçons. Et plus on démarre ça dès le plus jeune âge, et moins la sexualité est taboue, plus on en discute facilement et plus c'est facile, effectivement, de pouvoir discuter à la fois des méthodes de contraception, de sexualité et de faire un vrai choix et de pouvoir en discuter, parce que quelquefois, même au sein des couples, c'est un sujet qui peut être tabou, ce sujet-là. On considère que ça concerne que la femme et que c'est à elle de se protéger. Et si on se retrouve, s'il y a une grossesse non voulue, on dit bah, qu'est-ce que tu avais fait ou qu'est-ce que tu as oublié. Voilà.
Là, je suis complètement d'accord, sauf qu'il y a une asymétrie totale.
Bien sûr.
Qui est jusqu'à preuve du contraire, la seule qui va avoir la grossesse, les ennuis de la grossesse, éventuellement l'IVG, les complications de la grossesse, les complications de l'accouchement, etc., c'est la femme. Quand on me demande d'intervenir sur la contraception masculine, je dis toujours, mais attention mesdames, ne faites pas forcément confiance au bonhomme. Et donc, l'histoire de la pilule, l'observance chez les femmes, elle est extraordinaire.
Oui.
L'observance de n'importe quel traitement chez mes congénères masculins, elle est peanuts. On prend un peu d'antibiotiques 3 jours, alors qu'on avait 5, on est guéri, on arrête. Et après, on va râler parce que madame dit, bah, tu vois, t'as pas suivi ton traitement. Alors que les nanas, elles sont capables pendant 20 ans, on l'a entendu tout à l'heure, de prendre la pilule comme un petit soldat tous les jours. Les filles, respect, pour ne pas être enceinte, vous êtes capables. Par contre, effectivement, dans un couple stable, mais stable, on est toujours dans la relation de ceux qui ont eu qui utilisaient leur préservatif. Là, dans une histoire stable, et là aussi, il faut rassurer les hommes, avant la vasectomie, vous allez donner du sperme. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous avez de nouveau envie de procréer, il vous en reste chez Picard. Donc, il y a Mr. Freeze qui va pouvoir venir vous aider. Et ça, c'était facile. Donc voilà. Donc,
oui, mais c'était très drôle.
Mais je crois que ce qui est important, c'est vrai que les filles sont, se sentent beaucoup plus concernées par la pilule parce que c'est elles qui subissent les conséquences. Mais je crois que ce qui est vraiment important dans cette histoire-là, c'est que chacun se protège d'autres. Comme il le souhaite. Et ça, je crois que c'est important. Couple stable ou pas stable.
Non, mais respect de l'autre. Respect de l'autre.
Voilà, c'est respect de l'autre, c'est dialogue. Et puis c'est aussi, quoi qu'il fasse, moi j'ai envie de me protéger et je choisis la méthode. Mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est que, c'était un slogan d'INPES, mais je crois que c'est important, la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit, et du coup qu'on va aussi pouvoir suivre de façon plus régulière et plus sympa.
J'ai un dernier slogan avant de passer à la suivante. C'est un autre slogan, c'est la meilleure contraception, c'est celle qu'on oublie. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pense plus, et donc connaissez mon militantisme sur les contraceptions longue durée d'action, la meilleure contraception, c'est celle qu'on peut oublier. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, ok, je suis protégé, question grossesse, maintenant, j'ai une vie libre, j'ai une vie sexuelle, je, waouh.
Est-ce que je peux juste rajouter
un mot et puis Léna au standard.
Ouais, sur les stéréotypes quand même homme-femme, je pense qu'on peut beaucoup changer aussi justement en travaillant sur les questions de sexualité. Et je crois que des garçons peuvent se sentir autant concernés que des filles, à condition qu'effectivement on déconstruise tous ces rapports sociaux de sexe, et l'éducation à la sexualité, ça sert à ça aussi.
Mais Thierry Harvey Léna, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. En fait, moi, je voulais témoigner parce que sur la contraception définitive, que vous en avez parlé. En fait, c'est vrai que moi, j'ai vécu ça comme une révolution positive dans ma vie. Donc, je voulais apporter cette parole-là. En fait, moi, j'ai 42 ans et comme quelques femmes qu'on a entendues, j'ai commencé la pilule à 17 ans. Mmh. Et à 42 ans, je suis devenue visiblement mortelle puisque mon médecin n'a plus voulu me prescrire la pilule. Donc,
Pour quelle raison ? Vous avez eu une explication, Léna, ou pas ?
Oui, parce que en fait, je prenais également Diane 35, qui me convenait très bien depuis des années. J'ai eu 2 enfants, donc ils sont adolescents maintenant. Enfin, voilà, j'ai repris à chaque fois Diane. Et suite au problème qu'on a entendu, qu'il y a eu, et puis avec l'âge, je fume un petit peu. Enfin voilà, il y avait quand même quelques facteurs qui faisaient que j'étais plus bienvenue pour la pilule. Donc en fait, J'ai choisi un stérilet au cuivre, tant qu'à arrêter les hormones, autant vraiment les arrêter complètement. Donc, stérilet au cuivre, donc des règles complètement anarchiques, des règles hyper abondantes. Enfin bon, voilà, ça me pourrissait complètement la vie. Et ne voulant plus d'enfants, j'ai décidé de... J'avais entendu parler de cette méthode-là, donc des petits ressorts qu'on mettait dans les trompes. Hein. Ouais. Donc j'ai trouvé ça, ma foi, assez séduisant. Et puis tant qu'à faire, puisque je n'aurais plus d'enfants, ben, j'ai décidé aussi que je ne voulais plus avoir de règles. Mmh. Et donc on m'a proposé en fait l'ablation de l'endomètre.
Oui.
Et là, ça a été aussi pour moi une révolution et quelque chose. Donc depuis un an, donc je vis comme ça et c'est très très agréable. Hein. J'ai même oublié que j'ai eu un jour des règles. Enfin, c'est vraiment miraculeux en ce qui me concerne. Donc, voilà.
Merci Léna. La parole circule ici en studio. Thierry Harvey, bravo.
Bravo.
Avez-vous dit
bravo pour le gynécologue, bravo pour les personnes qui vous ont pris en charge. Hein. C'est-à-dire que vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a posé des dispositifs et sûrs avec compétences, et surtout qui a pensé au fait qu'auparavant vous aviez des règles abondantes avec votre stérilet au cuivre, parce que un des problèmes qu'on rencontre chez les femmes qui ont des essieurs à l'heure actuelle, c'est qu'elles redécouvrent leur vie physiologique, et du coup, les règles abondantes, les règles douloureuses, etc. Et là, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a fait une ablation de l'endomètre, donc une endométrectomie, et qui donc a accolé les deux faces de l'utérus, vous n'avez plus de règles, bravo. Et on va là, à côté de ça, on va se retrouver aussi, la symbolique de règles est réglée. Mais on a encore un certain nombre de gens avec un gradient sud-nord pour lesquels la symbolique des règles, on est encore dans le Lévitique avec l'histoire de sang impur. Hein. Vous reprenez la lecture du Lévitique, il y a un délai d'impureté qu'on retrouve encore dans les trois religions du livre, si vous lisez le Pentateuque, à 7h06, qui est votre...
Oui, c'est habitude. Ma lecture de chevet. Oui. Véronique Seyé, un mot, et puis Isabelle au standard.
Oui, je crois que c'est vraiment important cette notion de contraception définitive parce qu'on en parle très peu, c'est encore quelque chose qui est tabou parce qu'il y a aussi derrière ça la représentation autour de la maternité et qu'une femme doit être féconde. Mais je pense que pour beaucoup de femmes qui soit ont déjà eu des enfants et n'en veulent plus d'autres, soit qui n'auront jamais d'enfants parce qu'elles n'en veulent pas, c'est une méthode qui en France n'est pas suffisamment évoquée, n'est pas proposée et ça c'est vraiment dommage.
Clairement. Je salue Isabelle qui attend depuis une demi-heure Standard d'Inter. Bonsoir, mille excuses. Vous avez la parole, Isabelle.
Et bonsoir. Merci beaucoup pour votre émission qui est passionnante. Là, j'ai appris pas mal de choses.
Merci à vous.
Malgré mon âge. Voilà, bon, je disais, moi j'ai un certain âge, j'ai 57 ans et ben, j'ai eu la chance, étant collégienne, d'avoir rencontré des femmes du planning familial qui sont venues. Et puis, ça m'a vraiment permis de comprendre mon corps. C'était un peu l'époque MLF. Ah, oui. Mon corps m'appartient, bébé quand je veux, etc.
Si,
et moi, je suis un peu toujours dans cette mentalité. Je dirais que même s'il y a des hommes, évidemment, qui ont évolué et qui essayent de prendre leur part dans la contraception, je pense quand même que malheureusement, c'est quand même aux femmes de faire attention à elles. Voilà. Et je suis un peu effrayée d'entendre que effectivement le taux de pilule est de plus en plus bas chez les jeunes femmes. Donc si c'est pour avoir des méthodes efficaces par ailleurs, c'est très bien. Si c'est pour avoir un préservatif ou pas de préservatif ou du bricolage et pour avoir après un taux d'IVG qui remonte, je le crois, hein, chez les jeunes. Là, je crois qu'il faut en parler parce que c'est un problème grave. Et je me demande si justement, comme le disait la dame du planning,
Véronique Seyé.
Véronique Seyé, excusez-moi.
Il n'y a pas de problème.
Il y a vraiment un manque d'informations. Bon, je suis enseignante, mais en maternelle. Hein. Mmh. Il y a vraiment peu d'éducation à la sexualité. Moi, j'ai eu deux enfants au lycée. C'est vraiment très sporadique. Comment dirais-je, je me demande s'il n'y a pas un problème d'accès pour le planning familial ou d'autres associations dans les collèges et les lycées, dans certains quartiers. Est-ce qu'il n'y a pas actuellement des jeunes, filles peut-être même, qui refusent aussi que l'on parle de ces questions? Est-ce qu'il n'y a pas des causes religieuses, religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pour faire que ça redevient tabou et qu'on va régresser.
Merci beaucoup Isabelle pour cette intervention. Encore plein d'excuses pour l'attente au standard. Véronique Seyé.
Alors, je pense qu'effectivement, on a en France une loi sur l'éducation à la sexualité. Il faudrait qu'elle s'applique. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et quand, comme pour dans toutes les matières à l'école, eh ben, ça concerne tout le monde. Et ça, je pense que c'est vraiment une volonté politique et des moyens derrière à mettre.
Mais
pouvoir...
l'accès est plus difficile, demandait Isabelle, à l'école, au lycée, au collège.
Je crois qu'il y a eu, vous avez suivi comme nous, là, parler de sexualité à l'école, ça devient quelque chose d'un peu tabou dans certains endroits, donc on va pas en parler parce qu'on a peur d'eux, mais je crois que c'est un manque de courage et je pense qu'effectivement il y a des endroits où on peut il y a plein d'endroits où on peut en parler et je crois que c'est pas si tabou que ça. Et je crois que c'est vraiment important que l'information circule et qu'on donne la parole à tout le monde par rapport à cette question-là.
Thierry Harvey, un mot?
Un mot, il faut qu'il y ait des gens qui puissent se déplacer.
Voilà,
je l'ai fait aussi. Alors, quand on se déplace dans des lycées, on est bénévole, hashtag sur mon temps de travail. C'est-à-dire que, ouf, mon hôpital est gentil, me laisse partir un moment, une matinée, parce que je vais aller à Fil Santé Jeune, qui est à 500 mètres de mon hôpital, ou que je vais aller faire de l'information. Mais il faut trouver des gens motivés, bénévoles, il faut avoir envie d'y aller. Et c'est pas facile dans tous les lycées et les collèges. Lorsque vous êtes dans des collèges plutôt de l'ouest, vers le 92 ou le 78, j'ai le souvenir d'une de mes filles arrivant avec un lundi matin avec le t-shirt de la contraception de l'Association nationale de contraception avec marqué la contraception sur c'est pour le plaisir, c'était à Rueil. Mmh. On lui a demandé le mardi de ne pas reporter de nouveau ce t-shirt. Elle est en troisième.
Mmh. Un mot de conclusion, Véronique Seyer, il nous reste 20 secondes.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand je dis qu'il faut des moyens, c'est vrai que des associations ont des personnes qui sont formées pour intervenir. Il y a des enseignants qui sont formés pour ça. Il faut que ce soit fait de façon régulière et dès le plus jeune âge. Et que ce soit pas un sujet tabou et que ce soit une matière importante à l'école, mais que ça se fasse aussi de façon où on puisse dialoguer par rapport à ça. C'est pas une matière magistrale à enseigner, c'est vraiment un temps d'échange pour pouvoir parler de sexualité sans tabou. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dès le plus jeune âge et jusqu'à la terminale.
Merci à tous les deux, Véronique Seyer, Thierry Harvey et les très nombreuses auditrices et auditeurs d'Inter. Le journal à suivre.